Bienvenue à l'émission qui déclare la grâce souveraine et éternelle de Dieu en Jésus-Christ. L'évangile glorieux du Seigneur Jésus-Christ et son œuvre accomplie à la croix pour les pécheurs que Dieu le Père a ordonné à ce salut. Puisqu'il nous accordait des oreilles pour entendre les attributs glorieux de Jésus-Christ à travers ce message tiré de sa parole inspirée.
Je vous invite à prendre votre Bible et regarder avec moi dans Matthieu chapitre 5 et le verset 6. C'est mon texte pour ce message et il s'agit de ceux qui ont faim et soif de la justice. C'est une expression que nous trouvons ici dans le sermon sur la montagne que le Seigneur Jésus a adressé à ses disciples. Il faut dire que tout ce qu'il donne comme instruction ici, chaque verset est lié. Dans le verset 3, par exemple, il a dit « Heureux les pauvres en esprit ». Et chacun de ces attributs représente un besoin. Donc, quand on dit « Heureux les pauvres », il s'agit de ceux qui sont dans le besoin, la pauvreté. Mais quel genre de pauvreté? Pauvre en esprit. Donc, il s'agit là d'une situation spirituelle, une condition dans laquelle chaque personne née dans ce monde se trouve à cause du péché. Quand Adam a chuté, donc tous ceux de sa race maintenant ont hérité cette condamnation, ce jugement qui a été donné par Dieu depuis la Genèse. Et la preuve que nous sommes nés pécheurs, c'est que nous péchons. Et nous sommes dans cette pauvreté spirituelle, c'est-à-dire nous n'avons rien en nous-mêmes qui puisse nous recommander à Dieu en ce qui concerne le salut. Mais heureux les pauvres en esprit, heureux ceux que Dieu par sa grâce révèle en eux qu'ils sont pauvres en esprit, qu'ils n'ont rien. Parce que ceux qui sont pauvres en esprit, nous savons que c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui a révélé cet état et c'est ça qui les pousse à regarder ailleurs, regarder en dehors d'eux-mêmes, de chercher la solution en celui seul qui est venu dans le monde pour sauver ceux qui sont pauvres en esprit. Donc, heureux ceux-là. Et puis, lié à cela, le verset 4, heureux les affligés, car ils seront consolés. Il y a plusieurs raisons d'être affligés dans cette vie, mais ici, encore, il s'agit d'être affligés spirituellement. C'est-à-dire cet état de péché dans lequel nous nous trouvons nous afflige et nous n'avons en nous-mêmes aucune consolation. Nous n'avons en nous-mêmes aucun espoir. Et là encore, ça démontre le besoin ou la nécessité pour le Seigneur Jésus et son œuvre accomplie à la croix. Et puis le verset 5, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Le monde regarde ceux qui sont les débonnaires comme des faibles. Mais nous savons que être dans cet état d'humiliation, avoir des pensées d'humilité en ce qui concerne nous-mêmes et d'être amené par l'Esprit de la grâce à Jésus-Christ seul comme notre héritage. Alors, voilà pourquoi ceux-là sont heureux. Les débonnaires, ceux que Christ lui-même a humiliés devant lui. Et ils reconnaissent leurs besoins de lui. Maintenant, le verset 6, lié à tout cela, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Il s'agit ici de ceux qui ont d'abord la faim et la soif, non après les richesses ou bien les honneurs ou les plaisirs de ce monde, mais ici, il s'agit de la justice. Imaginons que nous avons un cas juridique qui est devant le juge. Donc, nous voulons la justice d'intervenir en notre faveur. Voilà le sens de ce verset. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. C'est-à-dire, nous désirons que Dieu, le juste juge, prenne notre cas de condamnation devant lui et qu'il juge selon la justice en notre faveur. Mais voilà le problème, parce que si Dieu nous juge selon notre mérite, alors nous savons qu'il ne peut que nous condamner. Donc, nous ne cherchons pas une telle justice qui va nous condamner. Nous avons faim et soif de la justice de Dieu dont nous lisons dans la Bible que Dieu est juste tout en justifiant les pécheurs pour qui le Seigneur Jésus-Christ est mort. Nous savons que si le Seigneur gardait le souvenir de nos iniquités, comme c'est écrit dans Psaume 130 et le verset 3, dans qui pourrait subsister? Avoir faim et soif de la justice, c'est avoir faim et soif de Dieu d'exercer sa justice envers nous qui sommes des pécheurs, mais d'une manière juste. Nous ne voulons pas que Dieu soit injuste comme certains juges font lorsqu'ils décident en faveur de certains criminels, mais ils mettent de côté la justice afin de pardonner les condamnés. Une telle justice n'est pas juste, mais trouver la manière d'être juste tout en justifiant les coupables, voilà ce que la Bible donne comme le remède pour des pécheurs tels que nous sommes, que Dieu devait condamner, et nous n'ignorons pas le fait que nous sommes condamnables. Mais en son Fils, le Seigneur Jésus, comme le substitut, en la voyant, il a placé sur son Fils la charge du péché de ce peuple qu'il a destiné pour le salut depuis l'éternité. Comme résultat maintenant, tellement la justice de Dieu le Père était satisfaite qu'il ne reste maintenant que le pardon et la justification de ces pécheurs pour qui Christ est mort. Toujours dans Psaume 130, voilà la prière du psaumiste dans le verset 4. Bien sûr, si Dieu gardait le souvenir des iniquités, qui pourrait subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Donc ça démontre encore une manière de s'approcher de Dieu dans sa sainteté et sa justice. Ceux qui ont faim et soif de la justice, ils ont besoin que Dieu intervienne à leur faveur, mais ils ne peuvent pas exiger ça comme un droit. Donc, ils s'approchent de Dieu dans cette crainte, sachant que la décision reste avec Dieu et Dieu seul. Mais le psaumiste dit dans Psaume 130, le verset 5, « J'espère en l'Éternel, mon âme espère. » Nous sommes en train de parler ici d'un désir, parce que c'est ce que c'est la faim et la soif, c'est le désir de l'âme, J'espère en l'Éternel, mon âme espère. Si nous trouvons quelqu'un qui aspire auprès de Dieu et qui a ce désir que Dieu fasse sa justice tout en pardonnant un tel pécheur, si nous voyons ce désir, nous pouvons dire que c'est une preuve de l'œuvre de l'Esprit dans son cœur. Parce que de nature, les hommes pécheurs ne réfléchissent pas à ces choses. C'est parce qu'ils sont morts dans leur péché. Mais là où l'Esprit de Dieu donne la vie d'abord, alors il y a des soupirs après Dieu. Le psaume 42 et le verset 2 décrit cette faim et cette soif. C'est écrit comme une biche soupire après des courants d'eau. Et là, il s'agit d'une biche qui est chassée par des gens qui veulent à sa vie. Donc, elle court et soupire après des courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Et notez bien dans le verset 3, mon âme a soif du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Alors voilà, ceux qui ont faim et soif de la justice, l'âme soupire après Dieu et espère. Et puis, dans Psaume 130, le verset 5, c'est écrit, mon âme espère et j'attends sa promesse. On ne vient pas devant Dieu exigeant quoi que ce soit. C'est nous qui sommes dans le besoin de son salut. Alors, nous nous approchons de lui et nous attendons sa promesse. Dans le verset 6 de Psaume 130, c'est écrit, mon âme compte sur le Seigneur. Voilà une véritable description de la foi. C'est une preuve de la régénération. C'est pas comme aujourd'hui où des prédicateurs lancent une invitation et demandent aux gens de bien vouloir s'approcher de ces prédicateurs pour que le prédicateur puisse leur imposer des mains et faire des prières de bénédiction ou bien citer certaines paroles qui seront maintenant pour ses adeptes des paroles de consolation, comme si maintenant ils seront sauvés par ces actes ou interventions du prédicateur. Non. Ici, c'est une question des pécheurs qui sont attirés par l'Esprit de Dieu, non pas à un prédicateur selon son invitation, mais à Christ par sa convocation. Voilà une différence. L'Évangile n'est pas une invitation. L'Évangile est une convocation. Et c'est Christ qui convoque. C'est Christ par son Esprit qui attire les pécheurs pour qui il est venu dans ce monde. Alors, ceux-là comptent sur le Seigneur. Ils ne comptent pas sur eux-mêmes, mais sur le Seigneur. Je sais qu'il y a certains qui me posent la question en disant, mais comment est-ce que nous pouvons savoir si nous sommes un de ceux-là que le Seigneur Jésus lui-même est en train d'attirer? Christ lui-même a donné la réponse dans Jean 6, le verset 37, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est pourquoi ceux-là qui sont attirés par l'Esprit de Dieu comptent sur le Seigneur. Et nous lisons toujours dans Psaume 130 et le verset 6, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Imaginez ceux qui sont gardiens de nuit et qui espèrent voir le matin pour pouvoir dire qu'ils ont passé la nuit en sécurité. C'est de cette manière que le Seigneur fait en sorte que ceux qui lui appartiennent veillent. Ça ne parle pas de veiller physiquement, mais du point de vue spirituel, ils veillent dans leur âme en ne comptant pas sur quelque sentiment que ce soit pour dire qu'ils sont sauvés, mais compter sur Christ, le Seigneur et son œuvre accomplie pour le péché. C'est pourquoi dans Psaume 130 et le verset 7, voilà ce qui est donné comme convocation. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel. Voilà pourquoi nous espérons en lui, parce qu'il n'y a pas de miséricorde ailleurs. La miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. Mais la décision de sauver ou pas, la décision de faire miséricorde ne dépend pas du pécheur, mais ça dépend uniquement du Seigneur lui-même. C'est pourquoi Paul, en écrivant aux Romains, dans Romains chapitre 9 et le verset 16, il a dit ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Alors nous savons que Dieu est celui qui doit faire miséricorde pour être sauvé. Et le verset 18 de Romains 9 insiste là-dessus. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Donc heureux ceux qui ont la faim et la soif de la justice telle que c'est décrit ici dans Matthieu chapitre 5 et le verset 6. Heureux comment? Bénis. Parce que sans l'intervention de Dieu lui-même par son esprit, en donnant cette faim ou donnant cette soif, aucun pécheur ne saurait savoir où se trouve cette miséricorde, ou bien comment Dieu peut être juste tout en justifiant les pécheurs qu'il attire à lui. Laissés à nous-mêmes, on irait toujours sur la voie de la condamnation. Donc si Dieu nous a donné ce désir, représenté ici par la faim et la soif, c'est une bénédiction, parce que c'est une preuve que c'est Dieu lui-même qui nous a donné cette vie pour savoir notre état de perdition et de regarder à lui pour notre justice, pour satisfaire sa justice à notre égard. Tel est le message que nous voyons dans Ésaïe chapitre 55 et les versets 1 et 2. C'est écrit, vous tous qui avez soif, voilà encore, faim et soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, mais notez, sans argent, sans rien payer. Voilà la convocation. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Verset 3 nous le dit, prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Alors ça exige d'abord des oreilles pour entendre que donne l'Esprit de Dieu, et c'est l'Esprit qui nous attire à ce marché de grâce. Voilà ce qui est écrit ici. Il y a ce qu'il faut pour la faim, il y a ce qu'il faut pour la soif, et donc nous sommes commandés à venir et acheter et manger. Acheter du vin et du lait. Voilà ce qui est dans ce marché, et ça représente la personne de Christ, le lait dans sa pureté, le vin, ça représente sa mort et son sang. Donc, nous devons venir et manger de ce Christ-là, spirituellement, par la foi, mais sans argent, sans rien payer. Pourquoi? Parce que c'est Christ lui-même qui a pris sur lui cette dette. Alors, avoir faim et soif de la justice, c'est d'être béni. Même d'avoir des oreilles pour entendre, c'est une bénédiction de la part de Dieu. Mais ceux qui viennent pour boire ou manger, c'est parce qu'ils sont dans le besoin. C'est comme nous, quand nous sommes assoiffés, nous cherchons de l'eau à boire. Quand nous sommes dans le besoin et nous avons faim, donc nous cherchons de quoi manger. Et si ce n'était la grâce de Dieu qui attire nos cœurs vers Christ, qui est l'eau de vie et le pain de vie, on allait chercher partout ailleurs sans jamais être satisfait. Mais voilà la promesse pour ceux que Dieu lui-même attire. Quand nous revenons dans Matthieu chapitre 5 et le verset 6, c'est écrit « Ils seront remplis ». Cela veut dire, dans l'œuvre de Christ et ce qu'il a accompli pour le salut de son peuple, rien n'est laissé à ces pécheurs-là que sa justice n'a pas satisfait. Que nous trouvons en Christ et dans sa personne et son œuvre tout ce qui est nécessaire pour le salut. Le salut n'est pas une partie à l'homme et l'autre partie à Christ. Non, tout dépend de lui. Si c'était à nous, comme Paul a dit dans Romains chapitre 3, il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul, dans Romains 3 et le verset 12. Nul n'est intelligent, le verset 11. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Voilà pourquoi, laissé à nous-mêmes, nous ne pouvons jamais avoir le salut. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, et c'est ce que signifie le mot Évangile, la bonne nouvelle, dans Romains chapitre 3, le verset 19, et voilà de la manière que ceux qui ont faim et soif seront remplis. Ils seront remplis, pas de pensée d'eux-mêmes, mais remplis de confort et consolation en Jésus-Christ. Et tout ce qu'il a accompli pour les pécheurs, Romains 3, le verset 19 nous dit, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, verset 21, sans la loi, cela veut dire sans exiger du pécheur une obéissance à la loi, et manifester, voici le mot-clé, la justice de Dieu. Donc voilà cette justice dont une âme régénérée par l'Esprit de Dieu a faim et soif. Maintenant, cela veut dire, depuis la croix du Seigneur Jésus, sans la loi, sans mon obéissance à la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Cela veut dire les Écritures de l'Ancien Testament. Et c'est écrit, verset 22, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Quand c'est écrit par la foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire la foi qui est fondée en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas là d'une croyance personnelle de ma part qui alors maintenant me justifie. Non, mais c'est la justice de Dieu révélée dans cette foi qui est en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Cela veut dire que ceux qui croient sont ceux qui ont faim et soif de cette justice accomplie par Christ, et alors ils viennent à Christ exclusivement pour être rassasiés et remplis. Et Paul dit, il n'y a point de distinction, car tous ont péché. Voilà notre état en Adam, et sont privés de la gloire de Dieu. Mais notez bien, Romains 3, 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voilà comment ceux à qui Dieu, par son esprit, donne cette faim et soif de la justice, sont remplis. Ils sont attirés à Christ, et en Christ, maintenant, ils reçoivent cette justification par sa grâce. Le mot grâce signifie sans les œuvres. Mais c'est grâce, pour que Dieu fasse grâce à des pécheurs comme nous, ça exigeait la mort de Christ. C'est pourquoi Romains 3, 24 le dit, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et maintenant, verset 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Le mot propitiatoire signifie satisfaction complète, de complètement apaiser la colère de Dieu à l'égard d'un pécheur. Voilà ce que la mort et le sang versé du Christ a accompli ce que Dieu sauve. Et c'est écrit afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Il s'agit là de ces élus qui vivaient dans l'Ancien Testament, les David, les Abraham, les Joseph, autres. Ils n'avaient pas puni leurs péchés, quoiqu'ils étaient des pécheurs comme le reste du monde, mais il a gardé sa justice jusqu'au moment où Christ est mort, et là, maintenant, il a versé sa colère sur son Fils, parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent. Il n'a pas simplement oublié les péchés de ceux qui étaient à lui avant la croix, mais dans sa patience, il gardait sa colère jusqu'à ce que Christ vienne. Et maintenant, dans le temps présent, il a montré sa justice tout en mettant la charge du péché de son peuple sur son Fils, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Celui qui a la foi en Jésus, c'est celui en qui Dieu a mis son esprit, et voilà, heureux ceux-là. Parce que si l'esprit de Dieu est en eux, cela veut dire cette faim, cette soif qu'ils ont pour Christ et Christ seul, et cette justice accomplie par Christ, c'est un signe de la bénédiction de Dieu, et c'est une preuve de sa grâce en eux. Ou d'avoir cette faim et soif pour cette justice de Dieu. Car tous ceux qui sont les objets de la grâce de Dieu trouveront dans cette justice accomplie tout ce qu'il faut pour être rassasiés et remplis en lui.
Vous venez d'écouter un message qui vous a été présenté par Ken Wymer, prédicateur de l'Évangile de la grâce de Dieu aux États-Unis. Pour plus d'informations sur le message ou d'autres renseignements, veuillez visiter notre site sur l'internet www.shreve.com. grace.org.